Bonjour, c'est Franck Ferrand. Vous aimez forcément les histoires, vous vous apprêtez à en écouter une. Eh bien, je voudrais vous parler d'un programme passionnant, La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, la référence en la matière. On y évoque des bijoux de sentiment, de pouvoir, des joyaux mythiques, fascinants, romantiques, leurs secrets, leurs légendes. Découvrez l'histoire du grand diamant bleu de Louis XIV et celle des grilles de mariage de Rihanna. Pour sa 4e saison, La Voix des Bijoux s'intéresse aux liens tissés entre bijoux et bande dessinée. La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers, est disponible en français et en anglais sur toutes les plateformes.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes dans les eaux proches de ce port de Plymouth, donc au sud de l'Angleterre, mais nous y sommes au printemps 1589 cette fois-ci. Il faut se figurer une flotte imposante qui est là, qui est au mouillage, robuste navire, chef-d'œuvre d'ingénierie armé de canons prêts à tonner et qui n'ont qu'un but. Quelques mois après l'invasion ratée de l'Angleterre par l'invincible armada espagnole, qui entre nous soit dit n'était pas si invincible que ça, la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, entend lancer une réplique furieuse à bord de grands officiers de la couronne qui se préparent à voguer vers la péninsule ibérique et parmi eux, le célèbre vainqueur de l'armada, que je n'ose plus appeler l'invincible armada du coup, l'amiral Drake. On remarque aussi un beau jeune homme, il a 23 ans, très belle silhouette, beau trait, nez viril, regard fier, il s'appelle Robert Devereux, il est comte d'Essex. Et la vérité, c'est qu'il n'a rien à faire ici. Et pour cause, la reine lui a formellement défendu de participer à cette expédition. Or, en principe, quand la souveraine rousse au visage pâle, quand Élisabeth, fièrement assise sur son trône depuis 30 ans, arrête une décision, inutile de vous dire qu'on n'a pas l'habitude de la contredire. Seulement, Robert n'est pas comme tout le monde. Depuis 4 ans qu'il fréquente la cour, il a pris une place extrêmement enviée puisqu'il est, vous l'aurez compris, le favori d'Élisabeth. Il doit cette place, bien sûr, à sa prestance physique, à sa haute naissance aussi, mais à son caractère flagorneur, et puis surtout, il la doit à cet extraordinaire tempérament qui est le sien. Il est étincelant, ce Robert. Il est cultivé, il est hardi, il est avide d'action. Et la reine vierge, comme on l'a surnommée, est séduite, bien sûr. C'est peut-être de l'amour, c'est peut-être une forme d'excitation face à cette personnalité rebelle et pleine de superbe. Reste que, malgré leurs 32 ans de différence, le lien entre la reine quinquagénaire et Robert inspire bien des murmures. Sauf que cette fois, en violant aussi délibérément la directive royale, Robert a quand même de quoi paraître plus irrespectueux que charmant. Je cite Jean-François Solnon dans sa récente « Histoire des favoris ». Dans des messages pressants envoyés à Drake, la reine dit sa colère, ordonna de renvoyer Essex immédiatement auprès de nous et menaça « Vous serez personnellement responsable de l'exécution de cet ordre ». Mais le navire était déjà hors d'atteinte et le favori vogua vers le Portugal.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il effectue assez bien cette campagne navale, notre entêté Robert. Il y cherche sans doute à démontrer qu'il est beaucoup plus qu'un fringant rapace de cour. La tentative, toutefois, se révèle décevante, puisque avec Drake, il va finir par reparaître sans avoir fait bien mal aux Espagnols. Décidément, ses initiatives navales ne sont pas de grand succès, d'un côté ou de l'autre. Et la reine, qui déjà était très en colère, alors là, est vraiment très très en colère. Je cite Jacques Chasse dans Historia. Elle manifeste hautement son mécontentement et frappe Drake d'une disgrâce qui durera 5 ans. En revanche, elle pardonne à Essex, dont elle ne saurait se passer, mais tout en le comblant de grâce, elle le tient à l'œil et se promet de dompter ce poulain trop fougueux. Robert va donc pouvoir poursuivre son chemin d'ambitieux, ce qui se traduit d'abord par un beau mariage, et ça agace franchement Élisabeth, bien entendu. Il souhaite aussi gagner en influence politique, et son idée est très simple. Il veut toujours plaider pour le mouvement. Il encourage l'engagement de l'Angleterre en France pour aller soutenir Henri IV face aux ultra-catholiques. La reine, qui a longtemps été réticente, va finir par donner satisfaction à Essex. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'elle peut lui refuser? Dès qu'il ouvre la bouche, elle est d'accord avec lui, son cher Essex. Elle l'envoie même diriger personnellement ses forces outre-Manche. Et on le voit ainsi en 1592 batailler sur le sol français. Et oui, on est très peu de temps après la mort d'Henri III. C'est bien Henri IV, le protestant, pour l'instant protestant, qui succède à Henri III, mais il lui faut encore conquérir son trône. Et les Anglais sont là pour y aider. Et il va démontrer, il montre dans toute cette affaire beaucoup de cran, qui se manifeste par des prises de risque au combat, mais aussi, encore une fois, par une espèce d'autonomie par rapport aux ordres de la souveraine. Il fait ce qu'il veut, en gros. Et évidemment, Elisabeth en a assez. La moutarde lui monte au nez, si vous me passez l'expression. Elle finit par l'obliger à repasser la Manche dans l'autre sens. Et pourtant, de nouveau, l'affaire s'apaise. Dès que Robert apparaît, que voulez-vous, la colère de la reine fond littéralement comme neige au soleil et il va reprendre ses activités exactement là où il les avait laissées. Et même en 1593 bien sûr, il obtient une place au Privy Council, c'est-à-dire au conseil restreint de la reine. Il va se montrer dans ce conseil très favorable à la guerre. Il critique la retenue, la prudence qu'un certain nombre de ses concurrents politiques ont l'habitude de mettre en avant. Ce que veut bientôt Robert, c'est faire partie du commandement d'une autre tentative navale, cette fois contre les Habsbourg, et pour arriver à ses fins, il argumente, il répète, il piaffe, il s'impatiente, et alors tout ça avec beaucoup de hauteur, parce que en prenant un petit peu d'âge, il prend aussi beaucoup de hardiesse. Elisabeth va trancher une fois encore en sa faveur, une expédition est échafaudée pour aller attaquer Cadix, expédition qui coûte extrêmement cher, comme toujours dès qu'on parle d'expédition navale, et dans le cas de l'Angleterre, vous imaginez bien que toute intervention militaire se traduit presque toujours en termes navals. Donc l'expédition est montée, et comme le relève Jacques Chastenet, au printemps 1596, lors du départ de Robert, la reine lui écrit « Je supplie humblement le Créateur de vous protéger de sa main bénigne. Revenez plus grand, j'en serai plus contente. » Et alors que le vent gonfle les voiles de son escadre, le splendide Robert court au-devant de la gloire, à moins qu'il ne court au-devant de l'humiliation. Cette ouverture des Hébrides de Félix Mendelssohn, l'orchestre philharmonique de Vienne était sous la baguette de Christoph von Donani.
Vous écoutez Radio Classique.
Donc nous sommes là à l'été 1596 et Robert revient d'Espagne avec beaucoup de fierté, fierté qui n'a rien d'usurpé puisque il n'a pas seulement attaqué Cadix, on peut dire qu'en 2 semaines, il s'en est rendu maître et ça a duré. L'Espagne a même dû s'humilier par le pénible sabordage de beaucoup de ses majestueux galions. Et pour l'Espagne, les galions, c'est le moyen d'aller chercher l'or des Amériques. Tout ça est fondamental, bien entendu. Et Robert est célébré en Angleterre. Je cite toujours avec le même plaisir notre Jean-François Solnon. Son hôtel londonien ne désemplissait pas, dit-il. Compagnons d'armes et admirateurs s'y pressaient. On l'acclamait à chaque apparition en public et lui-même, occupé à conserver vivant le souvenir de sa victoire, gardait la longue barbe qu'il s'était laissé pousser pendant l'expédition. Idole du peuple et des bourgeois, Essex, disait-on, avait sauvé l'Angleterre. Sauf que si on creuse un petit peu, on se rend compte que ça n'est pas si parfait en réalité. Elisabeth Elisabeth et Robert sont tous deux irrités et tous deux ont des raisons de l'être. Lui, parce qu'on l'a empêché de prolonger sa campagne qui commençait tellement bien, il fait partie de ces personnes ambitieuses qui ont toujours le sentiment d'être sous-employées, pas assez considérées, qui ont l'impression que le monde autour d'elles ne vont pas assez loin, n'est-ce pas? Bon, ça c'est tout à fait Robert. Et puis Elisabeth, pour sa part, discerne maintenant un peu de menace dans la gloire de ce jeune comte. Très concrètement, elle constate que les revenus de son aventure andalouse n'ont pas été à la hauteur de la réussite militaire du capitaine. Et pourtant, l'attrait du favori, une fois encore, va faire son œuvre. Elisabeth lui rend justice, elle rétablit son affection originelle à Robert et en bonne politique, et au risque de le crisper un peu, elle essaie quand même de faire en sorte que son influence trouve un certain nombre de contrepoids à la cour. Défi pour Robert, il ne peut plus se reposer seulement sur les lauriers qu'il a accumulés à Cadix. Il va devoir lancer d'autres aventures, des aventures maritimes qui se révèlent un peu piteuses, il faut bien le dire. Et puis il a ce mauvais caractère terrible. Alors vous me direz, la reine aussi a très mauvais caractère, mais ça veut dire que l'un et l'autre ne peuvent de temps en temps que subir de grandes turbulences. On peut pas dire que ça s'entende très bien. Robert et Elisabeth sont de tempérament trop fort, trop emporté. On en vient à une séance houleuse au sujet de l'Irlande insurgée. Robert supporte mal qu'un de ses proches ne soit pas envoyé sur l'île pour essayer de la reprendre en main. Et Elisabeth s'entête à lui dénier cette faveur. Elle ne veut pas que tout passe par lui, bien entendu. Et la tension monte jusqu'au drame. Et je cite Jacques Chastenet de nouveau. « Il lui tourne brusquement le dos. Elle, ne se contentant plus, soufflette l'insolent et lui crie « Allez au diable !» On assiste alors à un spectacle inouï. Essex portant la main à la garde de son épée et les yeux hors de la tête rugissant « C'est là un outrage que je ne supporterai pas. Je ne l'aurais pas supporté des mains de votre père. » Les spectateurs s'interposent, ils entraînent le comte au dehors, Elisabeth est complètement... Elle reste debout, silencieuse, haletante, nous dit Chastenet. Chacun s'attend à ce qu'Essex soit arrêté, enfermé à la tour de Londres. Eh bien non. Elisabeth est tout à fait hors d'elle, c'est certain, mais elle se contente d'exiler le malotru et sans tarder, évidemment, elle est bien obligée de reconnaître que Robert lui manque. Et après un petit moment, eh bien, elle commence à penser à un raccommodement. Ce sont deux orgueils qui s'affrontent, vous l'avez bien compris. Ni l'un ni l'autre ne veut perdre la face. Alors ils vont alterner des pas en avant, des pas en arrière. Et un jour, Elisabeth a ce mot à un des gens de la cour. Elle lui dit « Vous signifierez au comte que l'opinion que j'ai de moi-même n'est pas moins élevée que celle qu'il a de lui. » Et puis comme toujours, eh bien la crise va se résorber. Robert daigne esquisser une contrition et la reine s'en contente ou fait semblant de s'en contenter. Et il peut reparaître. Et voilà qu'après l'hiver 1599, il va pouvoir prendre le chemin de l'Irlande, où il est cette fois chargé de mater l'insurrection du rebelle Tyrone. Il a conscience qu'il joue gros, Robert, le comte d'Essex, devrais-je dire. Un triomphe devrait rétablir une faveur entière, mais s'il subit un revers, alors là, ça va avoir des répercussions personnelles qui sont assez difficiles à prévoir. Et assez vite, il va devoir constater que c'est plus difficile qu'il ne l'imaginait. Peut-être qu'il y a une forme de fébrilité chez ce jeune militaire. En tout cas, ses choix se révèlent inefficaces. Il gesticule, il va scinder ses contingents, refuser d'agir quand il faudrait le faire. On se met à lui reprocher sa passivité, ce qui quand même est un comble quand on le connaît un peu. Depuis Londres, Elisabeth commence à hausser le ton. Elle l'affirme, il est hors de question qu'Essex quitte l'Irlande sans avoir rabattu le caquet du maudit Tyrone. Seulement, Robert, lui, a le sentiment que sa mission est devenue impossible. Alors, il va être fidèle à ses habitudes. Il va, une fois de plus, braver les injonctions royales. Et en septembre, de son propre chef, il met sur pied des pourparlers avec Tyrone. Et il va signer un cessez-le-feu. Vous imaginez, exactement contre les ordres qu'il a reçus de sa gracieuse majesté. Et dès lors, les doutes vont bon train. On prête à Robert une intrigue secrète avec le chef irlandais pour envahir l'Angleterre avec son appui. Le favori n'ignore pas l'ombre qui plane désormais dès qu'on prononce son nom. Il se dit qu'il doit absolument parler à la reine. Alors, sans y avoir été invité, ai-je besoin de vous le préciser, il décide de se rendre avec un petit groupe d'appui solide en Angleterre. Pour tout vous dire, je ne suis pas persuadé qu'il va y être très bien reçu. Et oui, ce Robert Desaix a fait l'objet d'un opéra de Gaetano Donizetti qui s'appelle Roberto Devereux. Vous venez d'entendre quelques mesures de l'ouverture. L'Orchestre National d'Île-de-France était sous l'érection d'Enrique Mazzola et vous avez entendu une petite citation un peu anachronique puisqu'il s'agissait de quelques notes de God Save the Queen.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Dans la matinée du 28 septembre 1599, nous raconte Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission d'aujourd'hui, un cavalier parvient au palais de Sans Pareil. L'homme est épuisé dans un état guère présentable. C'est Robert, revenu en hâte d'Irlande. Il descend à terre, pénètre dans le noble bâtiment et marche à travers les pièces et corridors jusqu'à Élisabeth. Et là, c'est Bernard Cottret que je vais citer avec beaucoup d'émotion, puisque on est obligé de célébrer déjà l'anniversaire de la mort de notre regretté Bernard. Et voilà ce qu'il nous dit. Essex s'agenouilla devant la reine qu'il trouva dans ses appartements. Elle n'avait pas encore été coiffée et le reçut avec une familiarité qui le toucha au vif. Tout était-il oublié, pardonné? La vie pouvait-elle reprendre comme avant? Élisabeth était contrariée. On doutait en haut lieu des intentions profondes d'Essex. Alors, il y a une audition face au conseiller de la reine. Robert est sommé de se tenir dans un domicile de sous-surveillance. Il est assigné à résidence, si vous voulez. Ça montre quand même que sa faveur s'est bien étiolée. La reine ne peut plus tolérer toutes les désobéissances de ce chien fou. Et ça n'est pas sans effet sur Robert, puisqu'on voit sa santé chanceler. Certains évoquent la possibilité d'un trépas qui s'approche. Et bien des sujets attachés au vainqueur de Cadix commencent à s'inquiéter. La reine ne peut pas s'en empêcher. Élisabeth maternelle envoya un potage, nous dit Bernard Cottret. Les larmes aux yeux, elle avait confié qu'elle aurait aimé venir elle-même si cela avait été compatible avec sa dignité, puis de guerre lasse, elle vint enfin en secret et fit une apparition discrète, dispensant le miracle de sa présence bienfaitrice. Ça ne signifie pas une réhabilitation, puisque les errements irlandais du comte d'Essex aboutissent quand même au retrait de ses charges. Il est persona non grata à la cour. Alors, il va tenter quelque chose, une stratégie. Côté face, il fait tout pour convaincre Élisabeth de lui rendre sa faveur. Mais côté pile, si je puis dire, il n'est pas du genre à accepter qu'on le congédie. Il n'est pas un valet, il n'est pas un laquais. Alors il lâche devant des bavards des mots brutaux sur la reine, sur sa décrépitude physique. Ah, ça c'est une grave erreur. Et il va plus loin. Il se lance dans l'élaboration d'un complot pour renverser le pouvoir en lien avec le successeur putatif d'Élisabeth, qui est le Stuart, vous savez, Jacques Stuart. Sauf que les espions travaillent bien et ne manquent ni les mots blessants ni surtout les intrigues de l'insupportable Essex, des unbearable Essex, n'est-ce pas? Début février 1601, le bras de fer se concrétise. Le 7, Robert décline un ordre de venir s'expliquer face au conseil, tandis que ses partisans se montrent menaçants. Et là, on peut dire que c'était le pas de trop, qu'est-ce que vous voulez. Le lendemain, des hommes liés au pouvoir viennent lui intimer l'ordre de rentrer dans le rang. Ils sont arrêtés par les amis du comte. Robert est conscient qu'il est en train là de franchir la ligne blanche. Enfin, il atteint un point de non-retour, disons. Il ne lui reste désormais plus qu'une seule chance, c'est de tout risquer.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Essex s'employa avec ses partisans à susciter une rébellion dans le pays et dans la city, nous dit Jean-François Solnon. Mais les bourgeois londoniens ne bougèrent pas. L'insurrection ne dura que quelques heures et Essex rentra chez lui. La tentative a quelque chose de triste, comme si Robert avait lancé une balle qu'il n'avait pas rattrapée. Il a sans doute surestimé son prestige et son pouvoir. Et ça va être un procès à l'issue duquel ce comte, qui a 35 ans maintenant, est condamné à la peine capitale. Alors normalement, il devrait être attaché au bout d'une corde, émasculé, démembré, etc. La reine lui concède une simple exécution à la hache qui va avoir lieu le 25 février dans la tour de Londres. Robert, après quelques propos et regrets et quelques aveux complémentaires, doit affronter une exécution qui d'ailleurs va très mal se passer puisque le bourreau est obligé de s'y reprendre à plusieurs reprises. Il y a eu une tragédie sur cette affaire signée Corneille, non pas Pierre Corneille, le grand Corneille, mais le petit Corneille, si je puis dire, Thomas, son frère, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, et à tort, car il a été l'un des grands auteurs du XVIIe siècle. Et voilà ce qu'il fait dire à Élisabeth. « Je le sens, son trépas sera suivi du mien. Fier de tant d'honneur, c'est par lui que je règne. C'est par lui qu'il n'est rien où ma grandeur n'atteigne. Par lui, par sa valeur, ou tremblance, ou défait, les plus grands potentats m'ont demandé la paix. » et j'ai pu me résoudre. Ah, remords inutiles, il meurt, et par toi seul, ô reine trop facile.
Vous écoutez Radio Classique.
Ces quelques vers de Thomas Corneille étaient destinés à préparer le travail pour Christian Morin, qui va vous présenter toute cette matinée en alexandrin. Bonjour, cher Christian.
C'est à vous, ma sœur, que je parle, le moins de sollicissement pendant vos irrites, etc., etc. Je tiens à préciser, bonjour Franck, je tiens à préciser aux auditeurs que c'est la première fois que vous parlez des sexes sur Radio Classique.
Oui.
Vous avez remarqué ça, oui. Au demeurant, il faut quand même rappeler que les sexes, c'est un comté magnifique en Angleterre, pas très loin de la Tamise, où il y a d'ailleurs, mais ça vous êtes au courant en tant qu'historien, il y a, paraît-il, la plus vieille ville d'Angleterre qui date d'avant la conquête romaine. On a oublié que les Romains étaient allés jusqu'en Angleterre.
Oh là, oui, bien sûr. Et voilà. Adrien y a construit son mur, là, vous vous rappelez.
Ah, ce cher Adrien. Merci beaucoup, mon cher Franck, à tout à l'heure et à lundi. Alors, je vous souhaite un excellent week-end,
bien sûr. Bon week-end à vous, à tous.